Alors, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, en fait, depuis pas mal de temps, depuis à peu près un an et demi, j'apporte quelques messages dans Ésaïe, la première partie d'Ésaïe, et donc aujourd'hui c'est le dernier de ces messages. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, vous allez quand même comprendre l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est quand même la suite d'après une deuxième partie d'Ésaïe. Donc aujourd'hui, ce chapitre là, Ésaïe. Cela concerne un roi qui s'appelle Ézéchias. Et la dernière fois qu'il a fait le dernier jour, on a lu logiquement le chapitre 38, et c'était toute une histoire où en fait le roi Ézéchias était malade, et il a prié Dieu, et Dieu l'a guéri, a dit qu'on pourrait vivre. Et il a compris, nous pouvons lire ces quelques versets dans le chapitre 38, que c'était une grâce. Il dit, que dire? Dieu m'a parlé, et c'est lui-même qui a agi, et je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Donc on a compris en fait par cela que non seulement il a pu revivre quelques années sur la terre, mais que ses péchés étaient pardonnés, donc il a retrouvé la relation avec Dieu, et c'est pour cela que son amertume, donc verset 17, s'est changée en bien-être. C'est par la bonté de Dieu qui avait en fait enlevé ce que l'apôtre Paul appelle l'aiguillon de la mort. Parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort? On le craint, parce qu'en fait, il y a le jugement après. Et ce jugement, c'est à cause de notre péché. Et nous sommes tous pécheurs. Donc c'est le péché qui est l'aiguillon de la mort, qui fait mal. Mais pour le chrétien, cet aiguillon est enlevé, parce que nos péchés sont pardonnés. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est pour ça que nous sommes une église évangélique qui annonce l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et donc, à cause de cette guérison, Ézéchias fait la vœu en quelque sorte, la promesse devant Dieu au verset 15, de marcher humblement devant Dieu jusqu'au terme de ses années. Mais on va voir que malheureusement, au chapitre 39, ça ne se passe pas tout à fait comme cela. Malheureusement. En fait, il y a des leçons pour nous. Est-ce que la Bible est réaliste? Tient compte de notre faiblesse, de notre péché? En tout cas, il y a des leçons pour nous. Et ces leçons, on va les apprendre, j'espère, ensemble, en lisant le chapitre 39, qui est un chapitre assez court hein, par rapport à la plupart des chapitres que nous avons lus au cours de ces derniers mois. J'explique aussi pour ceux qui étaient avec nous avant que, tout comme le chapitre 38, cela se passe avant l'invasion des Assyriens, à laquelle le roi Ézéchias doit faire face, parce que, vous vous rappelez, pour essayer de racheter le peuple, il a essayé d'acheter le roi assyrien en lui donnant tout son trésor, et ça n'en pas à empêcher le roi assyrien de venir quand même s'attaquer au pays. Alors que dans ce chapitre, on voit qu'il a encore tout son trésor. Donc ça se passe avant un certain nombre d'événements des chapitres précédents. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? D'abord, je vais lire les versets 1 et 2, où il y a une délégation de Babylone qui vient à Jérusalem. Donc, Ésaïe 39, versets 1 et 2. À la même époque, le roi de Babylone, du nom de Merodach Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Et cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias le montra absolument tout dans son palais et surtout son territoire. On comprend déjà en lisant entre les lignes qu'il a fait une bêtise. Bon, on va revenir à ça. Alors, quels sont ces envoyés? Ce sont des envoyés de Babylone. Non, maintenant, attention. Parce que plus tard dans l'histoire d'Israël, Babylone, c'est le grand ennemi. À l'époque d'Ésaïe, ce sont les Assyriens qui sont la superpuissance du Moyen-Orient. Après, quelques années après, ça va être les Babyloniens. Mais à l'époque, ici, les Babyloniens, c'est un petit peuple. Et ce roi, d'ailleurs, Merodach Baladan, s'est un petit peu révolté contre les Assyriens pour garder son petit pays, pour garder le trône. En quelque sorte, on va dire, il est comme un héros de la résistance. Et il a reconnu en Ézéchias quelqu'un qui était aussi un roi qui résistait aux Assyriens. Donc ce n'est pas de façon innocente qu'il envoie des envoyés, c'est pour voir si finalement Ézéchias peut être un allié, en fait, face aux Assyriens. C'est pour ça qu'il arrive. Donc les Babyloniens, c'est comme la diplomatie, il comprend la maladie, la guérison donc d'Ézéchias, et dit, voilà, c'est l'occasion. Tu as envoyé un cadeau pour dire, voilà, je suis content d'avoir appris que vous êtes guéri. Qui dit là, hein, il a appris sa maladie, son rétablissement, c'était le moment d'envoyer des envoyés. Et quand ils arrivent, le roi leur montre tout. Ésaïe va montrer après que c'est une bêtise, mais en réalité, d'abord, en bon roi, comme tout gouverneur, on ne montre pas tout aux autres tout de suite, surtout son arsenal. On garde un petit peu, il y a le secret défense, comme on dit chez nous, il y a le secret défense. Ensuite, montrer tout, son argent, son or, ses objets précieux, bah, il y a peut-être des gens qui vont le convoiter après. On ne montre pas tout. Et spirituellement, en fait, il est fier de ses possessions, alors que c'est Dieu qui l'a donné. Donc il n'a pas donné gloire à Dieu, il a simplement montré les résultats, en quelque sorte, de la bonté de Dieu. Il n'y a rien qui dit qu'il a voulu parler à ses envoyés de l'Éternel qui lui avait donné son trône. Donc voilà, il y avait plusieurs raisons, que ce soit le secret défense, ou pour se garder des convoitises, et surtout pour des raisons spirituelles, qu'il a fait, en fait, une bêtise. Mais on peut l'expliquer de façon, avec une sorte de psychologie. Alors, il est guéri, tout va bien. On va dire, il a le moral. Donc maintenant, il est tellement flatté de l'intérêt de ces Babyloniens qu'il ne réfléchit pas. Quand tout va bien, il manquait un petit peu de prudence, on va dire. Donc il agit avec précipitation, sans consulter Dieu. Alors, c'est à ce moment-là que Ésaïe intervient. Donc les versets 3 et 4, Ésaïe va ensuite trouver le roi Ézéchias. Il lui demanda, qu'en disent ces gens-là? Nous sont-ils venus pour te voir? Ézéchias répondit, bon, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone, pour me voir. Ésaïe ajouta, qu'ont-ils vu dans ton palais? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Donc finalement, Ézéchias ne cache pas à Ésaïe que ce sont des envoyés babyloniens et qu'il leur a tout montré. C'est à ce moment-là que Ésaïe va en fait annoncer l'avenir. Un avenir qui n'est pas proche, un avenir en fait qui va se passer un siècle plus tard. Pour être exact, en 587, quand en fait les Babyloniens, devenus beaucoup plus puissants, vont emmener en exil le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda. C'est la déportation. Alors je vais lire les versets 5 à 7, qui est la grande prophétie d'Ésaïe. Alors, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi, et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui, il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, verset 7, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Tout ça, c'est réalisé beaucoup plus tard. C'est une prophétie très dure. D'autres prophètes vont venir, comme Ésaïe l'a fait avant l'invasion des Assyriens, tout comme ils ont fait depuis des années, pour dire, tous les prophètes, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas d'avis, ça arrivera. Ils n'ont pas changé d'avis, donc c'est arrivé. Alors, ce n'est pas vraiment à cause d'Ézéchias que ça s'est passé. Il ne faut pas faire un raccourci. Ce n'est pas parce que Ézéchias a montré ses trésors à ses envoyés que tout ça va se passer un siècle plus tard. Ce serait un peu exagéré de penser que son geste en tant que tel a mis ça. Mais, pourquoi Ésaïe en parle? Il dit parce que quelque part, il y a... C'est l'exemple type de ce que les rois suivants ont fait, le paradigme, pour utiliser un mot un petit peu savant, ce que Ézéchias a fait, les autres ont fait, mais pire. Donc, le manque de foi en Dieu, leur intérêt pour les biens matériels, et c'est tout. La pensée que tout va bien, donc de toute façon on est le peuple de Dieu, donc rien ne peut nous arriver. Tout cela... C'est arrivé avec en plus l'idolâtrie. Et même si Ézéchias lui-même est un bon roi, montrer tous ses biens, le Nouveau Testament dit que l'amour de l'argent est aussi une forme d'idolâtrie. Donc, apparemment, il était assez fier hein, donc de tous ses biens. On précise les valeurs, les objets de valeur, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse. Donc, il y avait un petit peu ça. Et avant d'aller plus loin, je pense qu'il serait intéressant de faire un saut en avant, en quelque sorte, où plus tard, c'est dans 2 Rois 17, hein, si vous découvrez dans le texte, le rédacteur de ce texte, de 2 Rois, exprime toutes les raisons pour lesquelles cette déportation va se faire. Se fait à Babylone. Et il pointe exactement les mêmes choses que Ésaïe vis-à-vis d'Ézéchias. Donc, 2 Rois 17. Les versets. Bon, je vais lire quelques versets à partir du verset 7. Il dit. Tout cela est arrivé, donc la déportation, tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux. Et c'est que les rois d'Israël avaient établi. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes. C'est pour offrir des sacrifices aux idoles. Qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées, ils sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée, sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux. Ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». Je saute au verset 13. Pendant que je vous récite. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes et de tous les voyants. Il leur avait dit, renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres, que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ils sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Donc voilà la raison pour laquelle ils étaient déportés. L'idolâtrie, le manque de confiance en Dieu, malgré les avertissements des prophètes, qui par tout le temps de prophètes, de voyants, de serviteurs qu'il avait envoyés, en fait, pour essayer donc de les détourner de cela. Et le pire dans tout ça, ça c'était l'exil donc d'Israël. Il s'était déjà passé, excusez-moi, c'était déjà passé avant. Et toutes les raisons, et Juda, le royaume du Sud, n'a rien compris de ça. Et le pire dans tout ça, parce qu'en fait, pour le moment, Ézéchias, il est tout content. Il est tout content parce qu'il se dit, juste revenir dans Ésaïe, Ésaïe 31, il est tout content parce qu'il dit, le verset 8, il dit, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. En effet, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Là, il s'est trompé. On ne peut pas dire qu'il y avait paix et sécurité pendant sa vie. On vient de lire 39 chapitres d'Ésaïe, avec les Assyriens qui viennent, qui s'attaquent, et tous les problèmes dans le pays. Donc il n'y a pas paix et sécurité pendant sa vie. Et le pire dans tout cela, pour moi, parce qu'en fait il est en train de dire après moi le déluge, on l'a dit, mais le pire dans tout ça, c'est son propre fils, Manassé, qui était le déclencheur de toute la suite. Son propre fils. Et je vais lire dans 2 Rois 21. Manassé. Bon, je reviens à 2 Rois 20. Le dernier verset. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres et son fils Manassé devint roi à sa place. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui a mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels en l'honneur de Baal. Il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi d'Israël, Akab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construit des autels dans la maison de l'Éternel. Alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis du temple. de l'Éternel, qui fait passer son fils par le feu, pour qu'il a même sacrifié son propre fils. Il pratiquait la divination et l'occultisme. Il met en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Il fait de plus en plus qu'il y a mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il met la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple. Alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison, et c'est à Jérusalem, j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je vais établir éternellement mon nom. Donc, non seulement il y avait les hauts lieux, donc les lieux en dehors d'Israël, de Jérusalem, il a mis des idoles dans le temple même. C'est horrible. C'est horrible. Et donc ça, c'est le fils même d'Ézéchias. Est-ce qu'Ézéchias avait mal élevé son fils? C'est pas dit. C'est pas dit. Mais, malgré tout, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut dire, et cela je dis, disons, à la défense d'Ézéchias, quand les Assyriens sont venus, quand il est devant la difficulté, il a vraiment fait appel à Dieu, il a prié, il a fait confiance. Donc, dans ce sens-là, il était guéri, il a fait une bêtise après en montrant toutes ses richesses au roi de Babylone. Quand les Assyriens sont venus, il a prié, on l'a vu au chapitre 37. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Non seulement il a demandé d'être délivré, il a voulu que toutes les nations comprennent que c'est Dieu qui l'a fait, donc c'était un peu de l'évangélisation. Donc Ézéchias n'avait pas du tout mal agi dans ça. Et à la fin, il a compris quand même la confiance en Dieu. Alors, au bout du 39 chapitre d'Ésaïe, quelle conclusion tirer quelque part? Donc il a dit après moi le déluge, paix et sécurité, pas exactement. Il a quand même prié après, il a été délivré. La conclusion, vous connaissez toute cette expression qui vient d'un pire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et là, on peut tirer des conclusions pour nous. Mais d'abord, regardons un petit peu, rapidement, en résumé, la vie d'Ézéchias. Il y a sa maladie. Il y a des moments où dans la vie, il y a la maladie. On ne peut pas l'empêcher. Et aussi, la bêtise d'avoir montré ses biens auprès des envoyés babyloniens. Il y avait l'invasion de cette grande armée, des dizaines de milliers de militaires assyriens. Et là, Ézéchias apprend le discernement. Donc, par cela, je veux dire qu'il a compris que Rabshakeh, ce n'est pas uniquement sauver Jérusalem, mais que Rabshakeh, donc le porte-parole des Assyriens, avait insulté Dieu. C'est ça. Il apprend la confiance en Dieu. Mais malgré tout, la règne de son fils est catastrophique. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, comment faire? Quelle conclusion tirer de ces 39 chapitres? En quelque sorte, toujours la même conclusion pour nous. Vivons jour après jour avec Dieu, malgré ce qu'il arrive. Donc, j'étais touché parce que c'était un peu ma conclusion, et David tout à l'heure a lu le titre qui dit « Dans le temps présent ». C'est dans le temps présent que nous allons vivre cela. Ou l'autre mot, c'est aujourd'hui. Et comme j'ai déjà dit plus d'une fois, c'est aujourd'hui que nous devons vivre avec le Seigneur. Le passé n'est plus là. Demain n'est pas encore là. On a seulement aujourd'hui, on peut vivre dans le temps. C'est compliqué, on ne sait même pas ce que c'est. Mais nous vivons dans le temps présent. nous n'allons jamais revivre le culte que nous avons vécu ce matin. Les mêmes personnes ici, peut-être, ne seront jamais plus jamais réunies, exactement les mêmes personnes, sans personne d'autre, et sans des absences. Nous sommes là aujourd'hui. Nous vivons ce moment aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons vivre devant vous aujourd'hui? Et c'est toujours aujourd'hui. Alors, trois choses. D'abord, de célébrer Dieu et être reconnaissant aujourd'hui. C'était le thème de la première partie du culte. Et c'est un verset que nous avions vu la dernière fois, il y a 15 jours, quand j'ai prêché sur Ésaïe 38, verset 19. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre comme moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on célèbre le Seigneur. Si on se dit, quand les circonstances seront bien réunies et tout ira bien exactement comme je veux, je vais louer le Seigneur, ben on peut attendre longtemps. Parce que il est tellement facile de vivre soit dans la nostalgie du passé, qu'est-ce que c'était bien avant, ou de dire, ah oui, mais je peux passer sa vie quand j'aurai passé mon bac, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai un bon travail, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand je serai à la retraite. Voilà. Et on attend toujours quelque chose. Mais c'est aujourd'hui que l'on doit célébrer. Ni la nostalgie, ni demain. Pensant, il a raison de remercier et de saluer notre reconnaissant. Nous sommes un troupeau de son pâturage, comme nous l'avons vu. La deuxième chose, c'est de faire confiance. Là encore, c'est aujourd'hui. Si quelqu'un voit tout de suite dans Matthieu 6, 11, comment aujourd'hui, que je dirais de le prêtrer. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est aujourd'hui. Donc ça veut dire, de façon plus générale, c'est aujourd'hui que je dois faire confiance à Dieu. Aujourd'hui. Et le dernier verset de ce chapitre 6 de Matthieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est aujourd'hui que je fais confiance à Dieu. Il y a peut-être des choses que je peux faire pour préparer demain. Mais ça, c'est pas la question de ce texte. C'est s'inquiéter pour demain dont il est question ici. C'est pas la même chose. Si j'ai un examen à passer, je révise aujourd'hui. Ok, ça c'est normal. Mais m'inquiéter aujourd'hui, ça ne sert à rien. Parce que ça ne résout absolument pas le problème de l'examen du lendemain. Il arrivera que l'on s'inquiète ou non. Je dis ça comme examen, mais enfin, on a tous des choses dans la vie. C'est ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de vous-même. À chaque jour suffit sa mère. Donc, on célèbre Dieu aujourd'hui. On vous fait confiance aujourd'hui. Et le troisième chose, c'est qu'on résiste au péché, on combat le bon combat aujourd'hui. Hébreux 3, 13. Je peux lire le verset 12 d'abord. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns des autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé, séduit par le péché. Bon, on est là pour nous encourager les uns les autres à résister au mal, à résister à la tentation et de ne pas nous endurcir. Donc c'est aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et croyez-moi, il n'y aura jamais de jour dans votre vie où vous allez vivre, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, parce que ce sera toujours aujourd'hui. Merci. qu'à Citronu, il y avait une sorte de... Donc là, vous avez entendu le coiffeur qui a mis demain en rase, je rase Bertis. Bah voilà, ils sont revenus le lendemain, mais c'est toujours demain. Donc c'est aujourd'hui que nous allons célébrer Dieu, lui faire confiance et résister au péché. Je termine avec ce verset dans le Proverbe. Garde ton cœur. Tout autre chose, car le visualisme est source de la vie. Et là, c'est le Seigneur dit, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde son cœur. Si ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, nous ne sommes pas responsables des choix et des agissements des autres. Ézéchias ne pouvait pas empêcher les envoyés babyloniens avec le cadeau. C'est ça qui est raison. Voilà, on est toujours en face de choses qui nous arrivent. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. C'est une leçon dure à apprendre. Non, jamais. Mais ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est notre façon de réagir. Donc voilà ce que je pense que c'est comme le premier chapitre de... Ésaïe nous apprend des leçons très simples, des leçons très concrètes, parce qu'il y avait des invasions, militaires, il y avait des injustices dans le pays, il y avait des bons rois, des mauvais rois, voilà. Mais le peuple devait se tourner vers Dieu.